deuxième partie, et puis ça va peut-être répondre à quelques questions, puis on reviendra un peu sur les questions ensuite, ça va? Ok? Merci Abbé, tu peux rester pas loin, et si tu veux intervenir, n'hésite pas. Compléter. On va voir la deuxième partie, on va revenir après sur les quelques questions que vous avez posées, on va essayer d'y répondre. Il y en a certaines, elles sont un peu longues, mais on va voir si on peut y répondre ou pas, en tout cas. On va parler du ciel maintenant, ça vous va? On parle du ciel un tout petit peu. Ok. Si, on va attendre que ça s'affiche. Voilà. Le ciel. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ou mourra, une traduction, ne mourra pas toujours. C'est-à-dire qu'il ne sera pas mort, il vivra. Crois-tu cela? Le ciel. Ce mot ciel est plus souvent employé que le mot paradis. Le mot paradis est employé 3 fois dans la Bible. Alors on peut aller le comparer au jardin, puisque le mot paradis signifie enclos, même enclos d'animaux ou enclos avec jardin. Mais le mot paradis dans le Nouveau Testament n'est employé que 3 fois, hein, tandis que le ciel, comme destiné, comme pour le chrétien, les cieux, pour destiné comme chrétien, est employé beaucoup plus souvent. Donc, si on reste biblique, on se rend compte que c'est plutôt le ciel où est Jésus qui est employé, plutôt qu'un paradis où, finalement, très égoïstement, excusez-moi l'expression, c'est un endroit où je me fais plaisir. Finalement, le chrétien, lorsqu'il connaît Jésus, il y a quelque chose que vous devez savoir, si vous n'êtes pas encore au Seigneur, c'est qu'il parle tout le temps de Jésus, il a envie d'être avec Jésus. Et le chrétien ne dit pas, ouais, écoute, je suis devenu chrétien parce que j'ai envie de faire un bon gueuleton, tout ce que j'ai envie, c'est d'être bien et qu'on me fiche la paix là-haut. Non, le chrétien, il a envie d'être avec son Dieu. Et c'est justement ça, le contraire de l'enfer. Le paradis, c'est un endroit où on va être dans la présence de Dieu, où on a envie d'être avec le Seigneur. Amen. Et pas un endroit où on échappe seulement, j'ai eu chaud, hein, j'ai échappé à l'enfer, mais un endroit où on a envie de rencontrer quelqu'un, plutôt qu'un endroit où on a envie de faire la coulée douce. Okay, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose que déjà vous devez savoir. C'est là que Jésus est parti. Il reviendra chercher son Église depuis le ciel. Alors bien sûr, ici, le ciel ne correspond pas au bleu de notre planète, au ciel bleu que vous voyez. Jésus n'est pas dans la stratosphère, ni là où sont en ce moment les satellites, ou à l'univers visible. On pense qu'il y a là des dimensions dans cet univers et des dimensions dans la vie de l'esprit, puisque Jésus étant, et Dieu agit par son esprit, et son esprit, on ne peut pas le saisir. On entend, c'est comme le vent, on ne peut pas le saisir. On sait, on entend la voix, mais on ne sait d'où il vient, d'où il va. Et ni non plus quand il parle qu'on va descendre en bas, dans les profondeurs, n'allez pas dans une grotte pour essayer de trouver le séjour des morts. Vous risquez de ne pas y trouver, sauf dans le Seigneur des Anneaux, peut-être. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Vous savez, quand à un moment donné, Lazare, dont tu as parlé, dont tu as cité le texte, Lazare qui est au ciel, dans le sein d'Abraham, et le riche qui n'a fait aucun cas de Dieu ni des autres, il nous a dit, il leva les yeux. Il leva les yeux. Donc ça montre bien que dans cette idée, c'est soit on descend en bas, et en bas, en général, ce n'est pas le meilleur endroit, ou soit on monte. Et Dieu veut nous faire monter dans les hauteurs. Amen. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mourir dans le Seigneur, c'est entrer dans le repos. Ce n'est pas un sommeil inconscient. Le repos, c'est se reposer de ce qu'on a fait. Reposer des combats, reposer des luttes, reposer des tentations, reposer de tout ce qu'on a vécu, des épreuves que nous avons eues pour tenir jusqu'à la fin. Vous savez qu'un chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est sauvé, mais c'est aussi quelqu'un qui passe des épreuves. La Bible dit que même les diverses épreuves qui nous sont imposées, nous devons les regarder comme un sujet complet de joie, parce que ça produit quelque chose dans notre vie. Ça produit une démonstration que quand on sera au ciel, on ne le sera pas là-bas par accident. On aura été tenté, le diable aura essayé de nous récupérer, il aura comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous avons vécu, nous avons combattu le bon combat et nous avons remporté la victoire. Amen. Et une fois que nous sommes là-haut, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus besoin. La démonstration a été faite. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est le repos qui nous attend. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Un autre texte. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et ce n'est pas le mot repos, ils dorment comme si, quand vous dormez la nuit 8 heures par jour et vous n'êtes pas conscient. Là, il est conseillé d'un repos concernant nos œuvres qui nous suivent. Amen. C'est pour ça que, écoutez-moi bien, c'est très important en tant que chrétien de savoir que c'est maintenant qu'on peut accomplir les œuvres de Dieu. Et que ce qu'on fait maintenant va déterminer ce qu'on aura là-haut. On n'a pas le temps de parler cet après-midi des récompenses, mais vous savez que lorsque Jésus parle de l'après, il parle de la parabole des talents et de la parabole des mines. Et ceux à qui a été fidèle dans peu de choses, on lui confiera des grandes. Et celui qui a été fidèle avec ce qui a été confié ici-bas, Dieu lui confiera aussi de grandes choses là-haut. C'est pour ça, là-haut, ça ne sera pas simplement un endroit où on va se tourner les pouces, mais je crois, frères et sœurs, que selon ce que je comprends de la parole de Dieu, ce sera un endroit passionnant. On ne peut pas vivre sans activité, sans avoir un objectif, sans exercer des responsabilités, etc. Et là-haut, ce sera un endroit extraordinaire pour nous, de continuer à servir Dieu et de se sentir utile dans la présence de Dieu. C'est une demeure éternelle, là où se trouve le Seigneur. Le brigand repenti a reçu de Jésus l'assurance qu'il serait avec lui aujourd'hui au paradis. Tu seras avec moi. Et Jésus n'est pas parti dormir. On est d'accord ? Il est parti se reposer car il a dit « tout est accompli ». Mais il avait quand même quelque chose à faire, on n'a peut-être pas le temps encore. Vous savez, c'est un sujet très vaste. Hein, il est allé prêcher au séjour des morts pour montrer que ceux qui n'ont pas cru ont eu tort de ne pas croire, parce que ce qui avait été annoncé par les prophètes est vraiment venu. Et il est passé au séjour des morts pour annoncer à ceux qui étaient dans la foi d'Abraham et qui ont cru à Dieu alors qu'ils n'avaient pas encore vu Jésus, que ça y est, c'est accompli. Vous savez qu'aujourd'hui encore, si vous voyez des juifs religieux, qu'est-ce qu'ils attendent à votre avis, les juifs religieux aujourd'hui? Le Messie. Amen. Ils attendent le Messie. Et Jésus est allé au séjour d'Abraham pour dire, je suis venu. Amen. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Et pourquoi la mort ne pouvait pas retenir Jésus? Et qui sait pourquoi la mort ne pouvait pas retenir Jésus? Parce qu'il était sans péché. Parce que quand Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et que la mort s'est étendue à tous les hommes, par Adam, et par Jésus, comme il n'a pas péché, n'a été trouvé aucune fraude dans sa bouche, le séjour des morts ne pouvait pas le retenir. Mais ça a été un moyen pour lui de prêcher en bas et de prêcher en haut, si on prend ces deux images. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que sera ce ciel? La parole de Dieu ne décrit pas en détail ce que sera le ciel, sans doute parce que notre condition humaine actuelle ne nous permettrait pas de saisir les merveilles qui nous seraient ainsi révélées. Elle ne dit, c'est pas qu'elle ne dit rien, mais vous ne trouverez pas dans la Bible une description de ce qui va nous attendre pour une éternité avec un corps glorifié, avec la présence de Dieu. C'est très difficile. Vous avez déjà vu l'Apocalypse déjà, quand ça nous révèle des choses à l'avenir, comment c'est déjà, c'est compliqué avec des images d'expliquer des réalités qui nous dépassent. Paul, l'apôtre Paul, ravise jusqu'au troisième ciel. Ça ne veut pas dire qu'il y a un quatrième ciel. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a un septième ciel. C'est avec le mot septième siècle. Le septième siècle, ça n'existe pas dans la Bible. C'est quelque chose de populaire et c'est même quelque chose qui pourrait venir en partie du Coran aussi. Dans la Bible, il parlait du troisième ciel et je pense que c'est sûrement le ciel où se trouve le Seigneur. Le séjour de Dieu déclare qu'il a entendu des paroles ineffables, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas retranscrire, qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Donc s'il a vu dans ce troisième ciel des choses qu'il ne peut pas exprimer, on ne peut pas aller plus loin que la parole de Dieu. J'aimerais vous donner plus de détails, mais je vais essayer de ne pas dépasser. Et en même temps, peut-être que cet après-midi, je ne pourrais pas vous dire tout en détail non plus. Il faudrait des heures. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais nous faire qu'une idée incomplète de félicité qui règne dans ce lieu béni, pas plus que de la gloire qui sera la part des rachetés durant l'éternité. Amen. Certains disent, comment sera mon corps? Moi, tout ce que je peux vous dire, que notre corps sera glorieux. Nous semons corruptibles, dit Paul, et nous allons ressusciter incorruptibles. Et il dit, la semence qui meurt, ce n'est pas la même qui repousse après. Ça veut dire que notre corps aura des propriétés et correspondra à notre personnalité. Et vous savez que même notre apparence physique sera sûrement différente, puisqu'on n'a pas reconnu Jésus quand il s'est présenté. On ne le reconnaissait pas spécialement. Ça correspondra à quelque chose qui est à vous, avec plus de maladies, plus de déchéances, etc., etc. Mais nous serons toujours entiers, corps, âme, esprit. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est pourquoi nous attendons la résurrection. Car c'est vraiment ça, le dernier ennemi vaincu, ça sera la mort. Amen. La Bible nous parle de nouveaux cieux, et j'ai oublié le mot cieux, de nouveaux cieux, et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Jésus a annoncé que le ciel et la terre d'ici-bas vont passer. Donc une chose que vous devez savoir, c'est que Dieu, quand il parle du ciel, c'est une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Cette terre, nous dit à un moment donné, vers l'Apocalypse, vers la fin de l'Apocalypse, quand il y a eu les jugements, il ne fut plus trouvé de place pour la terre, le ciel de l'époque, et même la mer. Si vous le lisez un moment dans l'Apocalypse, vous irez vers l'Apocalypse, vous verrez que même la mer disparaît. Mais de nouvelles terres, nouveaux cieux. Pourquoi il n'y a plus de mer? Parce qu'il y aura sûrement, à mon avis, c'est, la Bible dit que de Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem, va couler un ruisseau incroyable de la présence de Dieu et que l'eau sera là abondante et il n'y aura plus besoin de la mer. Mais bon. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La parole précise, en revanche, clairement ce qui n'existera plus sur la nouvelle terre. Les choses qui ne seront plus au nombre de sept. Cinq sont mentionnées en Apocalypse 21. La mort, le deuil, les cris, la peine. Et deux dans Apocalypse 22, 3 et 5, à propos de la sainteté citée durant le millénium, plus de malédiction et il n'y aura plus de nuit non plus. Donc ça veut dire qu'on ne sera plus obligé d'aller dormir. Ça va ? On aura un corps incroyable. Alors si vous connaissez mes Avengers, tout ça, vous voyez, ça va dépasser tout ça. État qui subsistera sur la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, voilà ce que Dieu promet aussi. Nouvelle terre, nouveaux cieux, et il nous est dit aussi qu'il y aura la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, c'est Dieu qui habite au milieu de son peuple. En réalité, là encore une fois, Jean va prendre des mots pour décrire en disant, voilà, sur les murs, il y a des noms, mais il va aussi prendre des pierres précieuses, il va prendre des choses qu'il connaît. Mais en réalité, l'habitation de Dieu en esprit, ce sera nous. C'est l'Église. Amen. Ce ne sera peut-être pas des murs en pierre comme nous on l'entend, mais ce sera quelque chose qui correspond à la présence de Dieu. Alors on me dirait peut-être qu'il y aura des murs en pierre, j'en sais, parce que c'est... Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette nouvelle Jérusalem, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des gens. Et vous lirez ça dans l'Apocalypse chapitre 22. Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et vous savez que le terme d'épouse est employé pour l'Église. Et je jouis une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation où le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Donc on se rend compte que cette nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse, c'est l'Église. C'est finalement ce qu'on prêche dans les églises évangéliques. Qu'est-ce qu'on dit dans les églises ? Que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Vous êtes d'accord avec ça ? Et pourquoi ça serait un bâtiment ? Non. Vous êtes des pierres précieuses. Quand la Bible parle des pierres dans le Nouveau Testament, ils disent que les pierres, maintenant, c'est vous. Le fondement des apôtres. Amen. Que même quand il parle de gens qui sont là, c'est comme des colonnes. Mais il ne parle pas de pierres, il parle de gens qui sont là. Amen. Sur lesquels Dieu peut construire quelque chose. Et cette épouse, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Tu le notes sur la... Tu l'envoies. Ok, on continue un petit peu. Voilà. Alors, cette sainte cité, La Nouvelle Jérusalem sera donc elle-même la demeure de Dieu, ce qui fait ressortir la position distincte et privilégiée que l'Église occupera durant l'éternité. Elle aura sans doute des relations avec les hommes, mais elle ne sera pas confondue avec eux, comme nous l'avons vu occuper une place à part entière durant le millénium. Et là, c'est là où parfois des gens disent non, le millénium n'existe pas, mais pour nous, nous croyons qu'il y aura vraiment un règne de 1000 ans de Jésus. Et que c'est dans cette dimension-là, alors là, c'est, suivez-moi bien, parce que ce n'est pas toujours évident à comprendre, dans cette dimension, on sera ressuscité et on aura la possibilité d'être en même temps sur la terre et en même temps d'aller au ciel comme Jésus avait cette capacité. Mais là, j'ouvre une porte et c'est super intéressant. Mais peut-être, vous voyez, ça, quand on ouvre des tiroirs comme ça, vous avez remarqué, on en ouvre plein, ça nous amène plein d'autres choses. Alors, je suis obligé d'être le plus court possible quand même. Elle conservera à jamais son titre d'épouse de l'agneau et les prérogatives qui s'y rattachent. Pareillement, Christ gardera éternellement son caractère de chef et d'époux de l'Assemblée, mais après qu'il ait remis le royaume à Dieu son Père. Ok ? On voit dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, qu'il y a Dieu et l'agneau. Mais on sait aussi dans 1 Corinthiens 15 qu'une fois que tout sera fini, Jésus remettra à son Père le royaume, parce que tout sera accompli. Et on peut dire aussi que ce qui est l'objectif de Dieu, c'est un royaume. Et pour ça que l'Apocalypse commence en disant que nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Et un endroit où Dieu règne. Un endroit où nous servons un roi extraordinaire. Alléluia. L'Église est considérée quant à elle, quant à ce qu'elle sera alors pour les hommes, une sainte cité d'origine céleste et divine. Pour Jésus, une épouse ornée, aussi belle qu'au jour des noces célébrées 1000 ans auparavant. Pour Dieu, une habitation et un tabernacle. Alors, allons un peu plus loin. Le disciple de Jésus, dans la félicité, attend la résurrection des corps. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors me direz-vous, certains disent, mais alors qu'est-ce que devient un chrétien quand il meurt? La Bible nous parle, et le pasteur Abed avait parlé du saint d'Abraham. On avait vu ensemble qu'ils ne dorment pas, qu'ils attendent la résurrection, mais ils sont déjà dans la félicité. Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Lorsque Paul parle de sa mort, il dit, mais avantageux, car je préfère être avec le Seigneur. Donc on est déjà avec le Seigneur. Amen. Donc c'est un endroit où dans la félicité, le séjour des morts, ils attendent le jugement, la résurrection et le jugement. Et c'est déjà, la Bible dit, c'est des angoisses déjà. Elle parle de l'angoisse du jugement. Nous sommes déjà dans la joie de la félicité. Et nous allons être dans ce paradis. Certains disent que c'est le paradis. D'autres disent que c'est déjà le paradis. Et puis, alors je ne vais pas trop m'étendre, mais certains pensent que lorsque Jésus est venu prêcher au sein d'Abraham, finalement, il est venu prendre ces gens qui espéraient en Christ et les a pris avec lui dans le ciel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a plusieurs interprétations. Moi, ce que je vois de manière très simple, c'est quand on meurt, on va auprès du Seigneur et on attend la résurrection des corps parce qu'on est un être entier, corps, âme et esprit. Ok? Et qu'on pourra à ce moment-là servir Dieu sur la nouvelle terre avec des nouveaux cieux dans la nouvelle Jérusalem. Et puis, je ne vous ai pas parlé de tout ce qu'on pourra faire, mais on pourra faire beaucoup de choses. Il y a parmi les choses qu'on fera l'adoration, parmi les choses qu'on fera le service, etc. Et on aura des fonctions, on aura des autorités différentes. Vous savez qu'à un moment donné, lorsque Jacques et Jean dit aussi, la mère de Jacques et Jean est venue en disant, dis à Jésus que quand ils seront dans le ciel, dis à mes fils qu'il y a un assis à ta droite, l'autre à ta gauche. Donc il y a une idée aussi dans le ciel que nous aurons des fonctions différentes en fonction de ce que nous aurons apporté, fait avec le Seigneur ici-bas. Chacun doit rendre des comptes, mais pour trouver une place qui lui correspond bien. Je ne pense pas que, personnellement, dans le ciel, il y aura des frustrations. Simplement, ce sera juste. C'est ce qui me correspond. Amen. La Bible dit même que lorsqu'on est chrétien, qu'on ne vit pas une vie pleine et entière, mais si on a la foi, on va quand même être sauvé, mais comme au travers du feu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas de gens qui vivent consciemment dans le péché. Parce que là, c'est autre chose. La Bible parle que ceux qui pratiquent le péché, qui pratiquent des choses condamnées par la parole de Dieu, ne pourront pas hériter le royaume des cieux. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vivent leur vie selon leur désir. Ils construisent leur maison, font leur business, et l'Église et Dieu, ça passe vraiment à la troisième ou quatrième place. Mais l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu.